Rencontre.
Rencontre avec Nathalie Lefèvre. En tête-à-tête avec les thérapeutes.
Bonjour et bienvenue, très chers auditeurs, sur Radio Médecine Douce. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Olivier Maslow. Bonjour Olivier.
Bonjour Nathalie.
Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler de la physique quantique par le biais du transurfing. Alors, peut-être qu'avant toute chose, on aimerait avoir quelques infos sur votre parcours à vous. Qui êtes-vous, Olivier Maslow ?
J'ai un parcours qui a commencé quand j'avais 4 ans. Je suis tombé de 2,50 m la tête la première sur du béton. J'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Et un peu plus tard, quand j'avais 22 ans, j'ai eu l'occasion de revivre ce moment-là et de tirer des conclusions un peu sur la façon dont je pouvais percevoir l'univers et la conscience humaine, etc. J'aime bien dire que quand j'étais là-haut, j'étais très entier, c'était énorme. Et à ce moment-là, j'ai commencé à lire des livres. Parallèlement à ça, j'étais musicien de studio à Paris, avec des grands noms de la chanson française. Mais j'ai commencé à lire des livres, à m'intéresser, à faire des séminaires de développement personnel, à m'initier à la PNL, etc., quand j'avais 27 ans.
Oui.
Et dans les livres, en fait, j'ai retrouvé les conclusions que je m'étais faites après mes expériences de mort imminente et autres. Donc, j'ai eu très vite la conviction que il y avait moyen d'être heureux ici sur Terre et de s'en faire un paradis. Et d'ailleurs, à travers ma vie, j'ai eu 3 vies. Quand j'ai arrêté d'être musicien de studio à 35 ans, je suis parti en Touraine développer des gîtes, des chambres d'hôtes, monter un projet de golf avec la comité de communes locale, du côté de Loche, précisément. Et puis, ma femme m'a quitté, il fallait revendre, et là, je suis parti en Belgique, et j'ai commencé à me former au coaching. Il faut savoir que j'avais auparavant accompagné des amis de mes enfants, alors adolescents, et que j'avais permis à certains de sortir des problèmes récurrents dans lesquels ils étaient, mais je savais pas encore que ça s'appelait du coaching. Je me suis ensuite formé donc à Bruxelles au coaching. J'habite Bruxelles d'ailleurs, et j'ai rencontré là-bas Tania Sakovic qui m'a parlé de transurfing, justement, pour faire le lien avec notre émission aujourd'hui.
D'aujourd'hui. Alors justement, en quoi ça consiste ?
Alors, Transurfing, déjà, c'est un best-seller qui a été écrit par un physicien quantique russe qui s'appelle Vadim Zeland et qui est traduit maintenant, je crois, en plus de 25 langues. Transurfing, en fait, nous propose de reprendre les principes élémentaires de la physique et de la physique quantique pour comprendre un peu, décrypter les lois de l'univers et nous permettre de comprendre comment ça se fait que la réalité que nous vivons n'est pas forcément celle que nous avons envie d'avoir, et comprendre quelle posture adopter justement pour pouvoir changer ça et aller plus résolument vers un but. Encore faut-il avoir défini un but dans la vie.
Alors selon vous, qu'est-ce qui pose réellement problème dans les méthodes de management actuelles qu'on trouve dans la plupart des entreprises en France ou peut-être en Europe ?
Alors, est-ce qu'on parle d'entreprise particulièrement ou d'organisation en général? Je pense qu'il y a un grand conditionnement sur l'aspect pression, je dirais, qu'on peut mettre sur des individus. Ce qui pose problème, c'est que souvent, les besoins d'un individu sont pas pris en compte. Mais quand je parle de besoins, je parle pas juste des besoins de manger, d'avoir un salaire, de pouvoir se nourrir, de pouvoir se loger et compagnie. C'est aussi les besoins d'être reconnu, de se sentir appartenir à une organisation, c'est de se sentir, d'avoir vraiment un sens, donner un sens à la vie, puis de pouvoir se réaliser au travers d'une organisation. Quand je parle d'organisation, je peux aussi parler de famille. Une famille, oui, c'est une organisation. Bien souvent, dans les coachings et dans les campagnes, l'accompagnement des personnes, les problèmes les plus récurrents sont des problèmes de confiance en soi et d'estime de soi. En fait, c'est parce que dès le départ, un individu, même dans une organisation comme la famille, peut être mis dans des situations où où il va avoir des obstacles, des freins, des fardeaux, des sacs à dos qui plus tard vont se révéler pesants et l'empêcher de s'épanouir et de se réaliser. Donc, c'est assez global. C'est changer le point de vue de l'organisation et faire comprendre à toute organisation que c'est en permettant à l'individu de se réaliser que l'organisation va aussi tirer toute sa prospérité. C'est vraiment une nouvelle vision. Que je voudrais apporter. Alors, c'est pas une nouvelle vision, ce serait prétentieux de ma part de dire ça,
Non, mais
mais
c'est une vision beaucoup plus humaniste.
une plus humaniste et qui est clairement appliquée dans toutes les startups, toutes les petites entreprises qui démarrent, où la ressource humaine est importante, puisque la ressource financière est pas nécessairement là. Mais il faut créer, il faut être innovant, il faut voilà, il faut être motivé, et donc à ce moment-là, l'humain est beaucoup plus pris en compte dans ce type d'organisation. Clairement, quand on voit les problèmes dans les bons groupes téléphoniques, par exemple, en France ou ailleurs, de suicide, de burn-out, de dépression, etc., c'est clairement que certains besoins supérieurs de l'individu, je parlais de l'appartenance, l'organisation, le sens de la vie et la réalisation, sont pas satisfaits. Et c'est des besoins essentiels,
Et finalement, vous parliez d'organisation, donc les organisations au sens large du terme, c'est-à-dire que déjà la famille est une organisation. Et est-ce que si déjà dans son contexte familial on part avec des problèmes de manque de reconnaissance, est-ce que ça va se répercuter justement dans une organisation plus grande comme le marché du travail?
Absolument, parce que le conditionnement. Alors, Transurfing parle de balancier. Balancier, c'est une structure, une organisation qui a des règles. Et souvent, on reconnaît un balancier quand on entend des il faut, tu dois. Donc, c'est des règles qu'il faut suivre pour être en accord avec l'organisation, avec le reste du balancier. Un enfant qui reçoit des conditionnements il faut, tu dois, par exemple, tu dois pas parler aux adultes quand les adultes parlent entre eux. C'est vrai quand il a 3 ans, 4 ans, 5 ans pour lui, mais quand il a 25 ans, ça reste à nouveau vrai aussi. Et une personne qui n'osera pas s'affirmer dans le cadre de l'organisation avec laquelle elle travaille ou elle collabore, c'est vraiment qu'elle a gardé cette croyance de je n'ai pas le droit de parler aux adultes. Donc, reprendre conscience de ça, c'est permettre de changer ce conditionnement et d'apporter des nouveaux conditionnements. Et là, Surfing va nous parler de la position de l'observateur. C'est-à-dire que dans une situation où je me sens mal, la première chose que je peux faire, c'est déjà de faire un pas en arrière, de me mettre en observateur de ce qui se passe, et à partir de là, me poser les bonnes questions pour amener les bonnes réponses. Au lieu de partir dans je me sens mal, je suis stressé, je suis en colère, ou alors j'ai envie de disparaître sous la table, et du coup je rentre dans une réactivité émotionnelle qui va m'amener à faire des choses qui ne conviennent pas à ce que je voudrais. Se mettre en observateur, se dégager émotionnellement de la situation, l'avoir avec du recul. Et c'est là le lien que je peux faire aussi avec les neurosciences, parce que je suis fan du mariage entre la physique quantique et les neurosciences. Les neurosciences, et particulièrement le modèle de Jacques Fradin, un docteur qui étudie le cerveau depuis 25 ans. Et lui parle de préfrontal, c'est-à-dire cette partie du néocortex qui est un peu le siège de l'intelligence supérieure, de l'intuition, de la créativité, et qui est capable d'apporter des réponses à des situations jugées comme complexes ou inconnues. Donc, sortir de ce conditionnement qui a plus à faire avec le mental, je dirais, se mettre en observateur pour justement permettre à cette partie du cerveau d'apporter les bonnes réponses, c'est le processus que je préconise et que Transurfing préconise, et qui permet de changer la suite. Si on considère que dans la physique quantique, tout est relation de cause à effet, ben, toutes mes pensées, actions et paroles m'ont conduit à la situation que je vis aujourd'hui. Donc, je suis capable de poser des pensées, actes et paroles différents qui vont m'amener vers une situation différente telle que je la souhaite.
Oui, finalement, si
Par
on peut à
exemple.
la fois s'entraîner vers une situation négative, c'est qu'on peut le faire aussi vers le positif. Et donc, à un moment,
Tout
il
à
faut peut-être
fait.
mettre un stop et un holà à une situation où on est nous-mêmes. Alors, lorsqu'on se place en victime, finalement, on est nous-mêmes responsables de ce positionnement-là.
Oui, ben oui, effectivement, la victimisation, c'est quelque chose de bien pratiqué, bien connu. Effectivement, la physique quantique va nous dire qu'il n'y a pas de hasard et la chance et le hasard n'existent pas. Ce ne sont que les résultats d'une succession de causes et d'effets, d'une part, et puis c'est aussi l'intention de l'observateur qui crée le résultat. Alors là, ça peut paraître un peu compliqué ce que je dis, mais déjà au milieu du XXe siècle, il y a de Broglie, Louis de Broglie, qui voulait montrer que Einstein avait tort, a fait des expériences. Et il s'est aperçu qu'en fonction de ce qu'il voulait observer et des capteurs qu'il pouvait placer simplement sur la même expérience, il obtenait un résultat différent. Et ça a été ensuite confirmé par plein d'expériences au niveau de la physique quantique et de l'électron et de ce monde microscopique. C'est qu'il y a une influence de l'observateur sur le résultat. C'est-à-dire que si on transpose ça avec des expériences comme l'interprétation de Copenhague ou la gnose de Princeton, on a vraiment des personnes qui nous disent, des scientifiques qui nous disent que l'esprit, donc la pensée en quelque sorte,
oui,
est un peu le tissu de la matière et constitue la matière. Alors ça veut dire que nous-mêmes, en tant qu'individus lambda, en fonction de ce que nous observons, nous créons une réalité qui est en rapport avec ça. Pour prendre un exemple concret, si à l'écoute des médias, par exemple, je me focalise sur tout ce qu'il y a de négatif dans le monde, forcément, je vais ne voir que ça, et dans mon monde, dans ma réalité, je vais, consciemment ou inconsciemment, en général inconsciemment, créer, ou en tout cas me sensibiliser et avoir tout un tas de situations négatives, parce que, quelque part, c'est ce que j'ai décidé d'observer, inconsciemment. Oui. Alors que si j'applique le libre arbitre, parce que c'est quand même un don de l'être humain, c'est de savoir qu'en fonction de toute situation, tout événement, il a le droit de se positionner. Il a le pouvoir de se positionner, de voir ça d'une manière négative ou positive. Et que je vois à travers des situations qui pourraient être même perçues comme difficiles, des occasions de m'enrichir, d'apprendre, de faire des expériences et de passer dans une autre dimension et d'évoluer. À ce moment-là, j'observe le beau et je crée le beau dans ma vie. Je suis dans une dynamique constructive. Et c'est un peu l'invitation qui est faite à tout un chacun, c'est de se mettre soi-même dans cette dynamique constructive. Il m'arrive un événement difficile, je me mets en observateur, je me pose les questions, à la limite, quels sont les avantages que je peux tirer de cette situation difficile. C'est pas une question qu'on a l'habitude de se poser, hein, mais c'est une question tout à fait préfrontalisante. Quels sont les avantages que je peux tirer dans cette situation difficile? Et rien que de se poser cette question, ça amène une dynamique créative et au lieu de rentrer dans une émotion contre ce qui m'est arrivé, je vais plutôt rentrer dans une créativité pour aller vers autre chose.
Finalement, vous avez l'impression que la plupart des gens, ils sont dans la restriction de leur réalité. Ils s'empêchent d'avoir des perspectives positives de vie.
Souvent, dans une séance de coaching, quand vous demandez à une personne de quoi elle n'a pas envie, elle va vous remplir une page A4 en 2 secondes.
D'accord.
Quand vous demandez qui elle veut être, qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie, qu'est-ce qu'elle a envie de laisser comme trace dans sa vie même. Alors là, les yeux montent au ciel et il faut parfois plusieurs heures de séance de coaching avant de définir l'objectif de la personne et le but. Et c'est un peu comme, pour prendre une métaphore, si j'ai pas de plan de vol, hein, si je sais pas si je vais à Marseille ou Tombouctou, ça sert à rien que je décolle. Hein, je peux pas commencer à mettre les pas dans la bonne direction si je sais pas où je vais. Et donc, au lieu, effectivement, de rester un peu prisonnier de tout ce qu'on peut entendre, alors en ce moment, on parle de la crise, en même temps, on peut voir clairement un conditionnement de pas mal d'organisations étatiques, financières, médiatiques, envers l'individu, qui nous font penser qu'il y a la crise. Et donc, les gens sont persuadés qu'ils sont dans la crise, et arrêtent de consommer, se replient sur des positions, et effectivement, créent la crise.
Donc, mais finalement, ça, c'est un levier de pouvoir. de la part de nos sociétés modernes.
En regardant ça vraiment en observateur et sans y mettre d'émotion ni quoi que ce soit, la physique quantique, enfin Transurfing nous parle de balancier en cela que ce sont des structures qui ont été créées à la base par quelques personnes, une famille, ouais. Si on parle de la famille. Donc, balancier, elle est créée parce que il y a eu un grand-père et une grand-mère qui ont des enfants, etc. Et ça fait toute une structure avec un transgénérationnel et avec des règles, avec des conventions. Il y a la culture qui se met là-dessus, il peut y avoir la religion qui se met là-dessus. Mais oui. En fait, un balancier, une organisation n'a qu'un but, c'est de grandir. Donc, à ce moment-là, elle a besoin d'avoir de plus en plus d'adhérents possibles. Mmh. D'adhérents qui vont aller la cause, qui vont peut-être même oublier leur propre but parce qu'ils adhèrent totalement à une organisation. Si j'adhère à un syndicat politique, à un parti politique plutôt, ben je vais aller coller des affiches, etc. Je vais passer beaucoup de temps à faire grandir mon parti politique, alors que je serais peut-être plus heureux si je vais faire mes passions et mon hobby, même au fond de ma cave, et que là, je m'épanouis totalement. Donc, le but de toute organisation est de grandir et de fédérer un maximum de personnes. Alors, c'est vrai que la peur est un moyen répandu pour avoir une emprise sur l'individu, que ce soit dans les familles, les religions, les États, les finances, etc. Et vraiment, la proposition, c'est de changer ça, c'est d'obtenir des individus dont le propre but est aligné avec la finalité d'une organisation. Si je suis dans une organisation dans laquelle je me sens appartenir, je me sens reconnu, il y a un sens pour moi et je me réalise et je m'épanouis, à ce moment-là, il est évident que je vais donner une motivation, une énergie créatrice et innovante à cette organisation qui va la faire progresser beaucoup plus que si je réagis dans la peur ou dans le stress, parce que on sait, et ça s'est confirmé par des études faites au niveau neurosciences, etc., que le stress est un facteur réducteur dans la prise de décision, c'est un facteur qui empêche l'épanouissement, qui empêche la bonne décision et qui va plus créer des complications qu'autre chose. Donc, pour l'instant et jusqu'à présent, et j'aime bien dire ce jusqu'à présent, la pression qui a été mise sur les individus pour les faire adhérer à un système, quel qu'il soit, est la peur, mais j'ai la conviction, et c'est un peu le but de ce message, de ce livre et de tout ce que je fais dans ma vie, que l'individu est capable de sortir de ça, qu'il est capable de prendre conscience qu'il a toutes les ressources en lui pour créer la vie telle qu'il la souhaite. Si j'étais pas convaincu de ça, j'arrêterais de faire ce métier immédiatement. Et en étant persuadé qu'il peut changer sa vie, il sort de ses peurs, mais on parle de zone de confort. Je suis dans ma zone de confort, ma petite zone d'habitude, je sais ce que j'ai un boulot qui me plaît pas, j'ai un patron qui me plaît pas forcément, mais au moins je sais ce que j'ai. Et je pourrais faire un pas pour sortir de cette zone de confort et puis partir chercher un autre travail, mais derrière il y a une zone que j'imagine de panique. J'ai l'impression que oui, mais alors on sait jamais si jamais je trouvais pas d'autre travail ou si jamais j'étais avec des gens avec qui je m'entends pas, etc., etc. C'est cette appréhension d'une peur qui est dans 98% des cas totalement imaginaire qui va m'empêcher de sortir de ma zone d'habitude. Donc, inciter l'individu à prendre conscience qu'il peut faire des pas en dehors de cette zone de confiance, de confort plutôt, et qu'à partir de ce moment-là, il va pouvoir créer une réalité différente. Je dirais que c'est un peu, oui, c'est un peu ma mission, ma légende personnelle, si on prend un autre terme, mais voilà, c'est un peu ce que je suis persuadé, en tout cas, que l'individu est capable de le faire. C'est un peu le sens de toutes mes communications.
En tout cas, la plupart du temps, les gens ne font pas réellement de choix. En fait, ils sont dictés par tout leur conditionnement et ils subissent plutôt leur quotidien, leur réalité, plutôt que de prendre part à cette création. C'est un mot que vous utilisez beaucoup, mais être de nouveau créateur de sa réalité, finalement, c'est un petit peu votre but.
Oui. La physique quantique va nous dire que nous n'avons qu'à choisir notre réalité. Pour prendre un exemple, c'est le film Matrix, où on s'aperçoit vraiment que voilà, au moment où il prend la pilule, il rentre dans la matrice, il a fait un choix clairement, ça sera plus jamais comme avant et il part vraiment dans une autre direction, mais en même temps il prend des risques. Alors, on n'est pas obligé de prendre des risques en faisant des choix. On peut poser des choix en toute lucidité. On peut simplement aussi avoir un plan B. Si je décide de changer quelque chose, ben, je vais quand même prévoir un plan B derrière pour retomber sur ma pa mes pattes, pas me casser la figure, ça marche pas. Et à partir du moment où on choisit autre chose et on met une intention, c'est là que je reviens sur l'intention de l'observateur, eh bien, il va se déclencher toute une succession de synchronicités, de signes, de cadeaux qui font que ben, je me suis mis en route vers mon objectif par les pas que j'ai faits. Et puis tout d'un coup, il y a des cadeaux qui m'arrivent. Je rencontre la bonne personne. Il y a des situations qui se facilitent, des problèmes qui se résolvent d'eux-mêmes, etc. Donc se mettre en route avec toute cette légèreté, cette confiance. Permet d'avoir vraiment une influence sur le champ énergétique, hein, le champ d'information à partir duquel se crée notre réalité. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler une résonance quantique. Je me mets en rapport avec certaines informations, j'observe un certain type de choses dans ma vie et le fait que je me mette en rapport, que je m'accorde un peu comme si c'était un émetteur-récepteur radio, eh bien, je vais recevoir des informations, je vais recevoir des événements qui vont faciliter la chose dans ma vie. Alors, ça pourrait être un peu abstrait, ça pourrait être, on pourrait dire, oui, c'est bien gentil, c'est quoi son truc, c'est encore le coup de la baguette magique, encore un truc dont nous bassinent les Américains depuis des années. Mais clairement, la physique quantique l'affirme aujourd'hui. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'aussi bien en neurosciences qu'en physique quantique, les sciences maintenant apportent des outils et des conclusions qui rejoignent les connaissances millénaires au niveau spiritualité. Donc maintenant, il y a vraiment un véritable accord entre cet aspect concret scientifique et ce qu'on disait être un savoir plutôt ésotérique ou imaginatif ou je ne sais quoi. Donc aujourd'hui, on a vraiment des outils qui permettent d'avoir des modèles concrets et de les appliquer de manière très concrète. Et je trouve ça très chouette, surtout en ces périodes effectivement de profonds changements où l'individu a tout intérêt à se positionner et à choisir la vie qu'il a envie d'avoir au lieu de se laisser mener par tout l'environnement.
Et donc vous, Olivier, qu'est-ce que ça a changé d'avoir conscience de ces outils et de donner en tout cas ce nouveau sens à votre réalité? Qu'est-ce que ça a changé dans votre parcours?
Alors, je dirais que j'étais déjà comme ça. J'ai eu trois vies, une vie de musicien, une vie de complexe touristique en Touraine, et puis une troisième vie de coach. À chaque fois que j'ai voulu changer quelque chose, à chaque fois que je m'amusais plus dans ce que je faisais, j'ai choisi de changer. Là, j'ai l'impression d'être d'ailleurs dans ce qui m'épanouit totalement, donc j'ai plus envie de changer. Donc inconsciemment, je pratiquais déjà ça. Je mettais en application mes choix. Maintenant, ce que ça a permis de conscientiser ce que je faisais de manière inconsciente. Et en conscientisant maintenant le principe, je peux me rendre compte beaucoup plus vite des éléments qui pourraient m'attirer vers une situation que je souhaite pas. Et alors là, il y a un élément chez Transurfing qui s'appelle l'importance, qu'on pourrait appeler la stressabilité en termes de neurosciences. C'est plus je vais accorder d'importance à quelque chose, plus je vais créer un déséquilibre sur le plan énergétique. En créant de l'importance, je surévalue quelque chose par rapport à une autre. Or, d'un point de vue nature, dans la nature, tout est égal. Il n'y a pas plus d'importance pour un être humain que pour un brin d'herbe. Je sais que ça peut en choquer quelques-uns, mais au point de vue nature, c'est exactement ça. Et en plus de ça, la nature va tendre régulièrement à retrouver un équilibre. Vous jetez une pierre dans une mare d'eau, au bout d'un moment, les vagues se calment. Et donc à chaque fois, c'est cette tendance vers un équilibre dynamique, ça bouge tout le temps, mais n'empêche qu'on va essayer à chaque fois d'aller vers l'équilibre. Une personne qui va surévaluer un objet, une situation, un autre être humain, etc., va apporter de l'importance et va créer un déséquilibre sur le plan énergétique, parce que sa pensée, c'est de l'énergie. En faisant ça, ben, elle va générer action-réaction, des forces qui vont chercher à rééquilibrer les choses. Donc, si j'accorde énormément d'importance à quoi que ce soit, pour la nature, ça va être plus facile de me donner un petit coup dans le nez et de me dire, écoute, t'es gentil avec ton importance, mais calme-toi, plutôt que de changer le monde autour de moi, parce que ça, il faut énormément d'énergie pour faire en sorte que le monde corresponde à mes désirs. Et j'ai pas plus d'être exaucé que n'importe qui d'autre. Donc, baisser l'importance, c'est un principe de base et d'être conscient qu'effectivement, à certains moments, en fonction des situations, j'ai toujours cette possibilité de tomber dans de l'importance et de mettre de l'importance et de perdre un peu, je dirais, la sérénité de la vision de l'observateur. Ça me permet concrètement de réagir, je pense, d'une manière plus rapide à une situation qui me tombe dessus et donc, du coup, apporter plus vite des bonnes solutions.
Vous auriez un exemple un peu plus concret pour illustrer vos propos? Une
Oui,
situation?
j'ai plein d'exemples concrets. C'est souvent, mais il y a un
C'est
exemple
souvent à
qui
travers
m'a.
l'expérience d'ailleurs qu'on prend pleinement conscience des choses. Je crois que souvent il faut
Oui.
vivre. C'est vrai que quand on lit des bouquins, en fait, il y a des théories qui nous parlent, qui d'ailleurs vont sûrement créer des prises de conscience chez tout un chacun. Mais c'est vrai que quand on vit l'expérience, ça change du tout au tout. Et c'est
Oui,
un changement qui s'opère profondément.
je vais prendre un exemple, ben oui, qui me concerne. C'est un exemple dans la famille. Donc, quand Transurfing a commencé à bien démarrer, j'ai envoyé un jour une newsletter et j'ai reçu un mail de mon petit frère qui me disait, est-ce que tu peux me désinscrire de ta newsletter, s'il te plaît? C'est assez anodin comme truc, hein, mais pour moi,
Ouais.
c'est tout à fait. Quoi? Alors, je lui ai répondu, ça me fait de la peine que mon petit frère me demande ça, voilà, c'est quand même quelque chose que je développe, qui me passionne et tout, ça me fait de la peine. Et là, il m'a répondu, écoute, voilà, t'es pas obligé de me faire du chantage affectif, moi je te demande pas de t'abonner à la newsletter de la société pour laquelle je travaille. Alors, j'aurais pu rentrer dans mes grands chevaux, je suis l'aîné de la famille, enfin, je comprends pas, c'est pas sympa du tout, là, j'aurais pu vraiment rentrer dans des exclambres, etc., parce que, pour moi, il y avait une importance au lien familial. Voilà. Pour moi, le lien familial, c'est quelque chose d'important. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi j'avais plus, de contact avec les cousins avec lesquels je jouais quand j'étais enfant, parce qu'on avait vraiment des contacts tellement géniaux, et maintenant, plus personne se voit, je vais pas dire qu'on s'ignore, mais presque. Donc, j'ai jamais tellement compris comment ça se fait que tous ces liens familiaux s'évanouissaient au fur et à mesure qu'on devient adulte. Et même avec mon petit frère, voilà, j'étais touché. J'étais vraiment touché. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais en train de mettre de l'importance à ça. Et que, en observant cet aspect que je voyais négatif dans la religion, pardon, dans la relation, quoique religieux, etc. Donc, je suis pas loin. voyant cet aspect négatif dans cette relation que j'avais avec mon petit frère, j'étais en train de me focaliser sur une situation et j'allais la faire grossir dans ma réalité. J'allais rentrer dans un conflit peut-être ouvert et qui allait peut-être s'étendre, etc. Et donc j'ai décidé de baisser l'importance que je pouvais accorder jusqu'à présent au lien familial. Bien sûr, la famille, c'est quelque chose qui est sacré. J'ai des parents, j'ai des frères et sœurs, j'ai des enfants aussi. Et mais en même temps, comprendre qu'au sein d'une famille, il y a aussi des individus et que ces individus ont envie de s'exprimer, qu'ils ont des besoins à satisfaire, etc. Et baisser l'importance d'être absolument dans ce lien familial. Je pense que ça a eu un impact positif sur la suite parce que ben, j'ai pu libérer mon mental pour me consacrer à créer d'autres choses et aller vers mon but plutôt que de dépenser de l'énergie inutile à cause de la provocation que j'aurais reçue de ce balancier familial. Hein, ça, c'est pas mon petit frère qui est en train. Lui, il a réagi, là, il m'a fait une demande, mais je me sentais attiré dans un conflit par rapport à un balancier, le balancier de la famille.
Et donc finalement, depuis, est-ce qu'il s'est réinscrit à cette newsletter?
Non, non,
Toujours
non, je lui
pas.
en ai même pas passé une semaine ensemble au ski en février. Non,
Bon.
non, je suis ravi de se retrouver. Donc, non, non, peut-être qu'il l'a fait, mais bon, maintenant, je ne sais plus contrôler, j'en sais rien. En tout cas, il est ravi de ce que je fais et moi, je suis ravi de ce qu'il fait aussi. Donc, le but, en fait, le but, c'est pas de manipuler qui que ce soit pour qu'il fasse quelque chose, parce que sinon, je tomberais aussi dans l'action d'un balancier. Si je commence à lui dire, tu dois faire ça, à ce moment-là, je deviens une personne qui va m'insérer dans la réalité d'une autre personne. Et ça, j'ai pas envie. Et ça, ce serait rentrer dans un jeu de manipulation, et c'est pas le but. Ce que j'ai envie à travers tout ce que je fais, c'est surtout de dire ce que je sais. J'ai eu la chance de vivre des expériences, de rencontrer des personnes, de tomber sur la tête, comme je l'ai dit en début d'émission, etc., qui m'ont fait faire des prises de conscience. J'ai le sentiment d'avoir des choses à dire. Et je voudrais simplement me borner à dire ces choses et à partager des messages et à le faire savoir. Maintenant, hors de question de dire c'est moi qui ai raison et vous devez faire comme ça. Parce que, d'une part, c'est faux, c'est pas moi qui ai raison. Ce qui est vrai pour moi, ça concerne ma réalité et exclusivement ma réalité. On est 7 milliards d'individus sur Terre, il y a 7 milliards de visions du monde et de dictionnaires différents. Mmh. Et chacun a des croyances qui font que c'est vrai pour lui dans sa réalité. J'aime bien dire que si un rituel fonctionne pour moi, si je vais faire ce rituel exactement de la même façon à une personne qui n'y croit pas, ça ne fonctionnera pas. Mmh. S'il n'y croit pas. Donc, imposer sa vision du monde à qui que ce soit, c'est antinomique avec une posture d'observateur et de vouloir simplement faire passer des messages. Maintenant, je dis ce que j'ai envie de dire, ce qui me semble savoir, ce que j'ai appris à travers mes expériences, et puis ben, les gens prennent ou prennent pas. Ça les regarde.
Alors Olivier, est-ce qu'on peut se former au transurfing, histoire de transposer un petit peu tous ces outils qui nous viennent de la physique quantique dans notre quotidien et dans notre réalité?
Oui. Alors déjà, la simple lecture des livres fait prendre... Il y a pas mal de lecteurs qui me disent j'ai pris conscience de plein de choses et ma réalité a changé depuis que j'ai lu le livre. Oui. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'expérimenter un peu plus. Et je dirais que l'expérimentation... à son utilité, en sens qu'on utilise beaucoup le ressenti corporel. Je dirais contrairement à d'autres approches, on estime que le ressenti corporel, hein, en deux mots, c'est comment je me sens, est-ce que je me sens mal et auquel cas je me sens contracté, crispé, replié sur moi-même, etc. Ou au contraire, est-ce que je me sens bien, épanoui, et qu'à ce moment-là, ça s'ouvre, et que j'ai au contraire envie de lever les bras au ciel et de sauter en l'air? Ce ressenti corporel, c'est un indicateur puissant. Déjà parce que il va se mettre en route si je suis confronté à une situation où je mets de l'importance. Fradin, avec les neurosciences, l'explique tout à fait en disant qu'il y a un signal qui est envoyé par le cerveau préfrontal au cerveau reptilien, pour prévenir d'une situation, d'une pensée inadaptée à la situation. C'est-à-dire que si je commence à accorder de l'importance, si je commence à avoir une pensée inadaptée par rapport à une situation, à ce moment-là, j'ai un signal corporel qui est un signal d'alarme. Hein. On appellerait ça le stress de fuite, de lutte ou d'inhibition. Mais quand je suis stressé, c'est qu'il y a un signal d'alarme qui me dit « attention ». Dans ton cerveau, dans ton mental, il y a une pensée qui n'est pas adaptée à la situation. Et donc, se mettre à l'écoute de ce ressenti en fonction des importances, se mettre aussi à l'écoute de ce ressenti pour faire un choix, parce que la bonne décision va amener une bonne sérénité. Tant que je n'ai pas pris la bonne décision, tant que je suis pas sûr de ma décision, je suis dans le trouble, c'est flou, je suis stressé, ça va pas. Ben là aussi, c'est le ressenti corporel qui va m'aider à poser des choix. Je dirais que c'est un peu toute la communication intuitive d'informations qui, selon la physique quantique, nous arrivent directement de ce champ de formation. Je reçois des informations sur ce qui est bon ou ce qui est mauvais sur moi à travers mon préfrontal, à travers ce que Transurfing va appeler l'âme, mais bon, on se met d'accord avec ce terme ou pas, peu importe, mais en tout cas, un être humain reçoit des informations d'ailleurs. Récemment, il y a eu des expériences qui ont prouvé que une grosse partie des informations contenues dans le cerveau n'était pas dans le cerveau, mais venait d'ailleurs, hein, ce qu'on appelle un peu le cerveau holographique. Donc, si je me mets en contact avec mon ressenti et mon intuition, je peux recevoir des informations. Et les séminaires Transurfing vont aider petit à petit à prendre conscience que par rapport à notre vécu, voilà, il y a des moments où on va être trop dans l'importance, il y a d'autres moments où on va se faire provoquer par un balancier, il y a d'autres moments où on aurait intérêt à se mettre en observateur, il y a d'autres moments où on va aller décoder la colère, comment ça se fait que je suis en colère, c'est quoi le besoin non satisfait derrière la colère. Une peur, c'est qu'il y a une croyance. Si j'ai peur, c'est que je crois qu'il va m'arriver quelque chose de mal. Comment recadrer la croyance et passer à autre chose. Un décodage aussi par rapport à l'argent. Comment ça se fait que l'argent me stresse? Comment ça se fait que je me sens un peu prisonnier de l'argent et que j'ai l'impression que je peux pas faire ce que je veux tant que j'ai pas d'argent? Ça aussi, c'est une croyance. On va dire au contraire, avance vers ton but et l'argent va arriver. Comment définir le but? Comment définir un plan d'action concret, toujours en accord avec ce ressenti? Comment partager aussi dans la relation avec l'autre et avec soi-même à travers un peu un langage d'intuition. On a des exercices où les personnes sont face à face et puis elles se disent des choses et sans se connaître presque, elles vont toucher juste. Elles vont se sentir reconnues et entendues par l'autre. Et voilà, et c'est se mettre en contact, rentrer dans ces expériences qui permettent des prises de conscience. Et j'aime bien dire qu'une prise de conscience, c'est un peu un saut quantique. Un saut quantique, c'est quoi? C'est l'électron qui passe de l'état de particule à l'état d'onde et d'une manière instantanée, imprévisible, etc. Mmh. Mais un saut quantique, en gros, c'est, y a eu un avant et il y a un après, et c'est instantané. Une prise de conscience, c'est comme si tout d'un coup, je prends conscience que j'avais certains schémas cognitifs ou comportementaux jusqu'à présent, et que à partir de maintenant, je suis capable... j'ai pris conscience de cela et maintenant je vais en adopter d'autres. Et donc j'ai avant et j'ai après. Et toutes ces prises de conscience, c'est un peu des petites graines qu'on met, qu'on sème, et après la personne les arrose, les fait germer, grandir, fleurir, s'épanouir et met en application toutes les prises de conscience qu'elle a eues pendant les séminaires. C'est des séminaires qui sont répartis sur 8 jours en 4 week-ends, 4 fois 2 jours séparés d'un mois. Et qui viennent de Russie directement. C'est avec Tania Sakovitch qui m'a apporté Transurfing qu'on les a adaptés de la Russie. J'y ai rajouté des éléments des neurosciences et maintenant je crois qu'on est à plus de 700 personnes qui ont goûté à ces séminaires depuis 2 ans. Voilà, ça avance.
Et qui sont devenus plus attentifs à eux-mêmes et à leur réalité?
Alors, il y en a pour certains qui, même pour un bon nombre d'entre elles qui ont changé radicalement leur vie. Je dirais que les 20-30% qui ne l'ont pas fait savent pourquoi ils ne l'ont pas fait. On reconnaît qu'ils ont des peurs qui les empêchent de rentrer dans l'action et de faire les... Ils reconnaissent ça chez eux. Et ça marche pas forcément pour eux, mais ils savent pourquoi. Ouais. Alors qu'avant, ils ne savaient pas pourquoi ça marche. Mais ils savent pourquoi. Et bon, allez, chacun à son rythme. Je remarque souvent que c'est 6 mois après un séminaire Transurfing que la réalité d'une personne a vraiment changé. Et d'ailleurs, j'ai décidé il y a peu de mettre les témoignages que je reçois par mail au fur et à mesure sur le site, parce que pendant longtemps, je me suis dit non, je vais pas tous les mettre parce qu'on va me prendre pour un vendeur de je ne sais quoi.
Oui.
Après, oui, là, la personne a eu le temps d'intégrer, de mûrir, de mettre en pratique tous ces concepts et sa réalité a vraiment changé. Oui, ça, c'est une certitude, oui. Oui.
Alors, en tout cas, nos auditeurs vous retrouvent sur votre site internet. Donc, c'est www.oliviermaslow.com. Donc, de toute façon, on affichera l'adresse du site internet sur la plateforme. Donc, avec plein d'infos sur les séminaires qui s'organisent, sur cette méthode et également sur votre livre qu'on va présenter dans une prochaine émission. Donc, Neuroquantis, l'entreprise neuroquantique aux éditions Courrier du Livre. Donc, ça fera l'objet d'une émission particulière. On sera très heureux de vous retrouver, Olivier. Peut-être juste avant de se quitter, j'aimerais reprendre une phrase d'un de vos articles. Le monde est notre miroir en tant que résultat de notre choix et de notre intention. Donc ça retrace un petit peu tout ce que vous avez dit pendant cette émission. En tout cas, nous, on vous remercie infiniment d'avoir accepté cette interview. Et donc, on aura le plaisir de vous retrouver très bientôt.
Nathalie, juste une chose, c'est pas oliviermaslow.com, ça c'est mon site personnel.
D'accord.
C'est plutôt surfing.fr. Transurfing comme surfer à travers, transurfing.fr, parce qu'on est francophone tout simplement. Donc c'est là, sur ce site-là qu'il y a les séminaires. Bon, ceci dit, sur mon site oliviermaslow.com, vous pouvez aussi trouver des infos, mais c'est surtout transurfing.fr. Effectivement, le monde est notre miroir, et ça c'est assez génial de se dire que en fonction de l'intention et de ce que j'observe, eh ben la réalité que je vis, c'est le résultat de ça. Donc si jusqu'à présent j'ai pu créer ça, bah maintenant je peux créer autre chose qui va plus dans le sens où j'ai envie que ça aille. Donc je trouve que c'est une belle nouvelle, en tout cas une belle prise de conscience pour tout un chacun de savoir qu'il a tout ce qu'il faut en lui pour être le maître de sa réalité.
Merci Olivier, très bonne journée, à bientôt.